Le prologue de Jean est un grand incompris dans nos textes bibliques. Incompris parce que d'abord, tel qu'il nous est livré dans nos traductions, il est inassimilable et absurde. En effet, toutes nos traductions disent, sans exception, « Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu ». Alors, je ne sais pas dans quelle logique vous fonctionnez, mais personnellement, je ne comprends rien à ça. Parce que je ne vois pas comment la parole peut être auprès de Dieu tout en étant Dieu. Or, les bons auteurs apprennent que c'est simplement une erreur de traduction et qu'il y a une traduction plus simple et à mon avis plus juste qui consiste à dire « Au commencement était la parole, cette parole était celle de Dieu et cette parole était Dieu ». Au commencement était la parole, cette parole c'est celle de Dieu, et cette parole c'était Dieu lui-même. Et du coup, on comprend un petit peu mieux. Et je crois que cela peut permettre aussi d'arriver à des affirmations théologiques absolument essentielles, parce que là aussi, le prologue de Jean est incompris, puisque bien souvent on trouve qu'il est très beau, mais on n'en tire pas forcément grand-chose. Or, ce qu'il m'apparaît, c'est que dans cette espèce de remake de la Genèse qui dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre et tout le monde dit voilà, on se remet dans l'ambiance du début de la création. Donc dans ce rappel de la Genèse se trouve en fait dans le prologue de Jean une théologie incroyablement audacieuse. Et il nous donne là une leçon de théologie que nous aurions bien grand intérêt à apprendre et que je crois bien de nos contemporains n'ont pas encore suivi. Et ainsi donc, je vous propose, avant même de lire la suite de l'Évangile, d'avoir au moins déjà assimilé le début qui se trouve là-dedans. Ce qui est révolutionnaire, c'est que Jean nous parle de trois réalités qui sont Dieu, sa parole et la lumière. Ça n'est pas très original. Il y a Dieu, on le sait, il y a la parole de Dieu qui est une parole créatrice, pas de problème, et il y a aussi Dieu qui est lumière, ça nous convient. Mais ce qui est absolument révolutionnaire dans ce prologue de Jean, c'est que Jean écrase en une seule réalité ces trois choses. Il dit Dieu, c'est sa parole, et cette parole, elle est lumière. Et donc cette égalité entre Dieu, la parole et la lumière est quelque chose d'absolument incroyable et je vais essayer de vous le montrer. La première chose, c'est d'associer Dieu et sa parole, ou plutôt de dire que Dieu est égal à sa parole. Ça n'est pas évident, parce que dans toute ma jeunesse, on m'a appris que Dieu est quelqu'un, que ce quelqu'un parle, et que, autrement dit, il y a deux choses différentes, il y a Dieu qui parle et il y a la parole. C'est-à-dire qu'il y a un locuteur et il y a une parole qui est distincte du locuteur. Et donc on m'a enseigné une sorte de Dieu un peu immobile et transcendant qui est au-delà du monde et qui agit en dehors de lui pour délivrer des paroles, pour créer et pour agir dans le monde. Alors que Jean voit les choses autrement, que ça vous plaise ou non, Jean nous dit que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire qu'il fait un raccourci et qu'il fait de Dieu son propre acte créateur. En effet, que la parole de Dieu soit créatrice, ça, c'est bien ce que nous dit la Genèse. Dieu crée par sa parole et la création, c'est le don d'une parole, c'est-à-dire, si je veux parler en langue moderne, la création de Dieu, c'est un don d'information cybernétique. C'est-à-dire que le monde se crée par une augmentation d'information et d'organisation. Et par conséquent, la création se fait par le don d'une information qui progresse dans le monde et que c'est cette parole qui crée le monde. Donc la parole de Dieu, c'est une parole créatrice. Autrement dit, la parole, c'est l'acte créateur de Dieu. Or voilà la révolution théologique que nous offre le prologue de Jean, c'est de dire que Dieu est son propre acte créateur. Ou plutôt, que l'acte créateur, que l'action de la création, c'est ça qui est Dieu lui-même. Alors c'est révolutionnaire, pourquoi? Parce que la tendance naturelle, je vous l'ai dit, c'est de séparer Dieu de la création. Et Dieu est un créateur, autre est le créateur et autre est l'évolution et la création. Le summum de cela, c'est ce qu'on appelle le déisme. Vous savez, Voltaire, avec son Dieu horloger. Voltaire qui disait, je cite, « Ce monde m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. » Les vers sont assez beaux et intéressants. Et son idée, c'était donc de dire qu'il y a un monde qui a été créé et que Dieu a donc agi pour faire le monde et pour créer, mais sous-entendu pour Voltaire, maintenant Dieu ne crée plus. Et donc Dieu est une sorte de réalité extérieure qui crée le monde, mais il est étranger au monde. En effet, l'horloger n'est pas l'horloge. Et l'horloger fait un acte qui est de fabriquer l'horloge. Et donc il y a trois choses. Il y a l'horloger, l'horloge qui est le résultat, et l'acte de l'horloger qui n'est pas l'horloger lui-même. Alors que Jean nous dit, d'abord, que le déisme est faux, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir qui a créé le monde, mais de savoir que le monde est encore actuellement sous un régime de création, c'est-à-dire que Dieu n'est pas quelqu'un qui regarde tourner le monde en se tournant les bras, mais que Dieu est encore aujourd'hui à l'œuvre et que la création est en train de se voir sous nos yeux, parce que Dieu agit dans le monde. Mais ça va encore plus loin, c'est que Jean nous propose de voir la création non pas comme un résultat, mais comme un processus. Et d'autre part, de dire, c'est ce processus de création même qui est Dieu. Et donc Dieu n'est pas une réalité extérieure qui fait quelque chose dans le monde, mais c'est Dieu, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Alors, je vous ai dit, le monde lui-même est en évolution. Donc il existe un acte créateur dans le monde, il y a quelque chose qui se passe. Alors ne me demandez pas s'il existe une cause à cet acte créateur qui en soit distincte. Et la théologie classique s'est fourvoyée en cherchant la cause de la création, en cherchant celui qui serait l'origine de ce qui se passe. Dieu n'est pas la cause de la création, Dieu c'est la création lui-même. Et Dieu n'est pas celui qui provoque l'évolution, Dieu c'est l'évolution lui-même. Et nous sommes ainsi très loin, vous savez, de cette preuve de l'existence de Dieu de Thomas d'Aquin, qui nous dit « tout est en évolution, mais pour qu'une chose se transforme, et il faut qu'il y ait quelque chose qui la transforme, c'est-à-dire que chaque chose qui se transforme est transformée par une autre. » C'est vrai. Mais il dit, si on remonte indéfiniment, chaque chose doit être transformée par une autre, et comme on ne peut pas remonter infiniment, il faut bien qu'il y ait quelque part un premier moteur immobile. Ça, c'est Thomas d'Aquin. Dieu, c'est ce moteur immobile, c'est une espèce de réalité extérieure au monde qui crée en dehors de lui le monde. Alors que pour Jean, eh bien, ça n'est pas comme ça. Dieu, c'est l'acte créateur lui-même. Dieu, c'est la transformation lui-même. Et ainsi, on n'a pas à se demander si Dieu existe ou non, parce que Dieu existe, bien sûr, puisque le monde est en transformation. Dieu n'est pas hétérogène au monde, comme s'il était une réalité qui pourrait agir ou ne pas agir dans le monde. Dieu fait partie du processus d'évolution, et Dieu, c'est le processus lui-même d'évolution. Et croire en Dieu, c'est croire qu'il y a dans le monde un processus d'évolution. Ça a été développé par un courant théologique américain d'il y a quelques années qui s'appelait la théologie du process, qui justement s'intéressait au processus et en disant que ce en quoi nous devons croire, ce n'est pas dans un Dieu immobile qui pourrait ou non agir dans le monde, mais dans le processus même du dynamisme créateur qui est en marche. Alors vous me direz, tout cela est un peu théorique, mais pas tant que ça. Parce que si on écoute bien ce qui est dit là, cela veut dire que ce en quoi l'on croit, ce n'est pas une réalité immobile, éternelle et immuable, mais ce en quoi l'on croit fondamentalement, c'est dans la transformation dans l'évolution et dans le mouvement. Cela veut dire que ce qui était vrai et essentiel dans le monde, ce ne sont pas les choses, ce ne sont pas les situations, mais c'est les transformations, les changements et le mouvement. Et ainsi, nous en arrivons à retrouver une philosophie ancienne sur laquelle je retombe finalement souvent, malgré moi, c'est Héraclite, qui s'opposait, vous savez, au grand Parménide. Parménide disait « la réalité essentielle, c'est l'être immobile ». C'est-à-dire qu'il y a une sorte de substrat immobile fondamental à l'univers, et l'univers est imparfait parce qu'en lui, il y a des choses qui naissent et des choses qui meurent. Et ça, c'est très embêtant. Et donc, Parménide disait « l'important, c'est l'être premier et immobile ». Et Héraclite, s'opposant à Parménide, disait que c'est le contraire, et que les choses soient présentes, c'est qu'une ombre de la réalité fondamentale qui est mouvement. Il disait en grec, parce que c'était sa langue, « panta rei », c'est-à-dire « tout coule », et on ne boit jamais la même eau dans la même rivière, parce que tout est en transformation, et donc la réalité fondamentale du monde, ce n'est pas l'immobile, mais c'est le mouvement. Eh bien, je le crois. Et ça a, si on veut bien se fonder là-dessus, des implications considérables sur la vision que nous pouvons avoir de notre vie. Parce que croire que l'essentiel n'est pas l'immobile, mais le mobile, c'est plutôt voir sa vie, non pas comme un bien à conserver, à faire perdurer, à protéger contre une réalité en mouvement, mais c'est de voir sa vie comme un changement permanent et perpétuel. Et c'est de considérer que les changements du monde, que les changements de notre vie ne sont pas des catastrophes, mais au contraire, sont les lieux mêmes, je dirais, de la présence du divin, de l'éternel et du transcendant. Et ainsi, nous sommes invités à ne pas rester figés sur le passé, en essayant de garder ce qui est, pour sauvegarder l'immobile. Mais si je crois dans un Dieu qui est parole, qui est acte créateur, cela veut dire que si j'ai Dieu dans ma vie, Dieu n'est pas là pour me conserver comme une sorte de statue de cire au musée Grévin, mais que ce Dieu est en lui-même un dynamisme qui va m'emmener d'un point A à un point B et encore au-delà. Et ainsi, si moi j'ai foi en Dieu, ce n'est pas pour m'aider à rester, surtout sans bouger, sans rien faire, pour que rien ne change, mais si je crois en Dieu, je dois admettre que ce sera une aventure incroyable qui va m'emmener complètement ailleurs de là où je suis. Croire dans un Dieu parole, c'est croire dans un Dieu de changement, d'évolution, un Dieu qui bouge, un Dieu de nouveauté et un Dieu qui, justement, fait déplace les choses. Quand on ne veut surtout que rien ne bouge, on dit « Chut, taisez-vous, pas un bruit, ne dites rien, surtout ne dites rien, que rien ne change, que rien ne bouge. » Mais Dieu, c'est une parole, et la parole, c'est dérangeant. Parce que la parole, c'est une information qu'on n'avait pas, c'est une injonction de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. La parole, c'est une idée à laquelle on n'aurait pas pensé. La parole, c'est ce qui fait bouger et ce qui met en mouvement. Et c'est très dérangeant, mais c'est ce qui nous permet d'avancer et d'aller vers de la nouveauté. Ça a aussi des conséquences importantes sur la conception qu'on a de l'Église. Parce que si l'on croit que l'Église est le lieu où l'on célèbre Dieu, comment célébrer Dieu ? Est-ce que le meilleur moyen de célébrer Dieu, c'est de dire que surtout rien ne bouge ? Non. L'Église doit être justement le lieu où résonne une parole nouvelle. Et est-ce que l'Église est un lieu où l'on n'entend pas ce que l'on entendait hier ? Si l'Église est un lieu où l'on n'entend pas ce que l'on entendait hier, alors c'est une bonne Église. Si c'est pour ressasser indéfiniment les mêmes choses depuis des siècles, cette Église rate sa mission, parce que la parole est sans arrêt neuve. Et donc la religion n'est pas là pour faire perdurer une forme, ni pour rassurer les gens en leur disant « Vous voyez, rien n'a bougé, rien ne change, c'est le même discours, c'est la même chose, on est au même endroit, une sorte d'image de l'immobilité ». Si l'Église est cela, elle rate sa mission, parce qu'elle ne prêche que la mort, et je dirais l'athéisme, c'est-à-dire l'absence de ce dynamisme créateur. Une église, ça doit être au contraire un lieu de bouillonnement, un lieu de vie, un lieu de création, un lieu de nouveauté. Et la religion doit nous aider à aller de l'avant, à avancer et à évoluer. Et on voit ça très bien d'ailleurs dans l'Évangile, parce que l'opposition entre le Christ et les pharisiens est absolument de cet ordre-là. Les pharisiens, eux, croyaient que Dieu ne parlait plus. Pour eux, Dieu avait parlé à Moïse sur le mont Sinaï, un petit peu ensuite aux prophètes. Et puis depuis moins 300 avant Jésus-Christ, Dieu ne parlait plus, plus de paroles. Et donc ils étaient justement dans l'immobile, dans le traditionnalisme. Et si Dieu ne parle plus, eh bien on n'a plus qu'à ressasser des formes anciennes, à vivre sur la tradition et à vivre sur l'écrit. Le Christ, au contraire, nous dit, eh bien voyez-vous, Dieu continue à parler. Et Jésus lui-même n'a rien écrit, parce que la parole qui devient écrite devient une parole morte. Et les évangiles, ce n'est pas ce en quoi nous croyons. Nous croyons dans le Christ, parole vivante. Et les évangiles nous font voir ce que Jésus a pu un peu dire, mais les évangiles ne sont pas la parole de Dieu. Les évangiles ne sont pas dictés par Dieu, et n'en déplaise aux musulmans qui nous disent qu'on est le peuple du livre, nous ne sommes pas le peuple du livre. Nous sommes le peuple d'une parole vivante et non écrite, qui est celle de Jésus. Et donc le Christ nous apprend justement qu'on n'est pas dans la tradition, on n'est pas dans l'enfermement, on n'est pas dans la répétition, mais on est dans l'adaptation, dans la nouveauté, dans le souffle. Et ça, les réformateurs l'ont compris. Vous savez qu'un des principes fondamentaux de la réforme et de l'Église réformée, qui est la nôtre, était Église réformée, certes, mais toujours en réforme. Église toujours en réforme, pour pouvoir avancer, nous donner une Église nouvelle, nous donner des commandements nouveaux, une nouvelle manière d'accomplir la loi, et la fidélité à l'Évangile ne peut pas se faire aujourd'hui comme elle se faisait du temps des Actes des Apôtres, n'en déplaise aux diverses sectes évangéliques qui veulent répéter le modèle de l'Église primitive. À chaque temps, il y a sa parole. Et cette affirmation donc de Jean va encore plus loin avec un autre écrasement dont je vous parlais, qui est de dire que cette parole, elle est lumière. Et là, c'est extrêmement révolutionnaire aussi, parce que quand je dis que Dieu est parole, je vous ai dit, il est acte créateur, il n'est pas l'immobile qui agit de l'extérieur dans le monde, mais Dieu, c'est le bouillonnement du monde lui-même. Il y a un danger parce que la parole peut avoir une dimension d'enfermement. La parole, c'est un ordre. La parole, c'est une direction. La parole, c'est quelque chose qui ne laisse pas beaucoup de liberté. Si je vous dis une vérité, vous êtes un peu coincé par cette vérité. Alors que la lumière, c'est tout le contraire. La lumière, elle n'impose rien. La lumière, c'est une ouverture totale. Quand Jésus guérit un aveugle, il lui donne la lumière. Il ne lui indique aucun chemin. C'est étonnant. Il ne dit pas à l'aveugle, « Je te guéris, je t'ouvre les yeux, mais maintenant, attention !» Tourne bien ton regard vers moi, suis le chemin que je t'indiquerai. » Jésus lui dit, tu veux voir ? Très bonne idée. Il lui ouvre les yeux et ne lui donne aucun ordre. Et du coup, l'aveugle peut aller là où il veut. Et donc, c'est étonnant parce que nous avons à la fois un Dieu qui est action, qui est parole, qui est création, et tout ça est quand même un peu contraignant. Et on nous dit, attention, cette parole, c'est aussi une lumière, c'est-à-dire tout le contraire de l'injonction, c'est-à-dire l'ouverture absolue, la liberté totale. Celui qui a la lumière a infiniment plus de liberté que celui qui est dans l'obscurité, parce que même celui qui est dans le noir peut se croire libre, mais il ne l'est pas parce qu'il ne sait pas où il va. Celui qui a la lumière, non seulement il est libre comme nous tous, de faire ce qu'il veut. Mais en plus, il a la liberté de choisir. Et ça, c'est une chose essentielle. Et on nous dit ainsi que cette parole créatrice, ce que Dieu fait de mieux pour créer le monde, et ce que Dieu apporte dans ce monde, c'est non seulement un changement et un renouvellement permanent, mais que tout cela va dans le sens d'une lumière dans la nuit. Lumière qui, je vous ai dit, ouvre des portes. Lumière qui permet de voir un horizon que l'on ne soupçonnait pas. Lumière qui permet de découvrir un lieu où je peux aller que je n'imaginais pas. Et cette lumière qui peut nous aider à sortir de nous-mêmes pour voir plus loin, cette lumière qui me permet de découvrir l'inconnu, eh bien, c'est cela qu'est la parole. Et dire que la parole de Dieu est lumière, c'est tomber. Tout à l'heure, je vous disais qu'on nous faisait sortir du traditionnalisme. Dire que la parole est lumière, c'est nous faire sortir du fondamentalisme, c'est-à-dire d'une parole à laquelle il faudrait obéir. Et on voit que cette parole, eh bien, ce n'est pas une parole à obéir, ce n'est pas une parole à suivre, mais c'est une parole qui va m'éclairer et même peut-être me déstabiliser, me forcer à changer, me remettre en cause pour que je ne me contente pas de ce que je suis. Et cette parole qui va me créer, il me crée comme une lumière qui ouvre un espace devant moi et non pas qui me force à aller à suivre quelque chose aveuglément. Et je dirais que c'est ce que j'aime dans l'Évangile, c'est que justement, ce n'est pas une parole à obéir bêtement, mais à la limite, c'est une parole qui m'ouvre un espace devant moi pour que je choisisse ensuite où je vais. Je dirais même que cette parole peut saper mes certitudes, saper ce que je croyais sûr et vrai, et faire un trou devant moi, mais vous savez, comme on fait un trou devant la roue d'une voiture qui patine, pour l'aider à se dégager, pour l'aider à sortir de l'endroit dans lequel elle n'arrivait pas à sortir. Une parole qui ouvre des voies, qui fait voir des réalités que j'imaginais pas, un aspect des choses, des issues, des solutions que je ne pouvais même pas envisager. Ce n'est pas une parole qui restreint le réel, mais qui l'ouvre et qui crée du neuf. Quand on regarde dans la Genèse, on voit d'ailleurs cette parole qui fonctionne comme ça. C'est une parole qui n'empêche pas d'être. C'est pas une parole qui met des ordres en disant « le ténèbre, va-t'en, surtout, fais pas ci, fais pas ça ». C'est une parole qui, au pire, met de l'ordre dans un réel existant, mais qui surtout appelle et crée du neuf. Il dit « la lumière, quelle la lumière soit ». C'est génial, il n'y en avait pas, personne n'avait l'idée qu'il y ait de la lumière. Et voilà que Dieu, tout à coup, invente la lumière. C'est d'ailleurs la première chose qu'il crée. Quelque chose que l'on ne pouvait pas imaginer, que l'on ne pouvait pas déduire de ce qui précède. Et ainsi, je crois que, pour en revenir à la religion, son rôle doit être aussi de nous ouvrir des portes. Non pas de nous enfermer dans des obéissances, dans des interdictions, mais au contraire de nous éclairer. Elle doit nous instruire, nous ouvrir les yeux, elle doit être audacieuse, prendre le risque de la liberté. Et la religion doit être inventive, parce que nous sommes invités dans notre rapport à Dieu à trouver en Dieu justement cette capacité d'invention, de trouver en Dieu cette lumière qui nous permet de trouver le chemin pour nous tirer d'affaires auxquelles nous ne pensions pas. Et ça n'est pas naturel. C'est pour ça que Jean dit bien cette parole, le monde ne l'a pas reçue, parce que le monde n'y comprend rien. Pourquoi ? Parce que le monde, il veut toujours que les choses restent comme elles sont. Et nous n'aimons pas le changement. C'est pas que vous, c'est moi, tout le monde. Et donc si on vieillit, ça nous plaît pas. Si on est malade, ça nous bouleverse nos projets. Parce qu'on voudrait que tout reste comme les choses comme elles sont. Et au contraire, ce que Dieu peut nous apporter, c'est de trouver une nouvelle manière d'être et sans arrêt de naître à nouveau et sans arrêt d'être un être neuf. Eh bien, hier j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai plus de 50. Plutôt que de faire semblant de vivre comme quand j'avais 20 ans, avec Dieu, je peux trouver une manière d'être ce que je suis aujourd'hui. Hier, par exemple, quelqu'un marchait sur ses deux jambes, il a un accident, il est handicapé. Eh bien, et alors, avec Dieu, il peut trouver une nouvelle façon d'être. Il faut inventer quelque chose. Toute épreuve dans notre vie est une situation nouvelle. Et Dieu n'est pas là pour nous aider à revenir en arrière. Et Dieu n'est pas là pour faire en sorte que ce qui a eu lieu n'ait pas eu lieu. Mais Dieu peut nous aider à nous adapter, à inventer une nouvelle manière d'être et à nous ouvrir des chemins, nous ouvrir des portes et à justement être dans cette dynamique de la création qui nous permet d'être sans arrêt quelque chose de neuf. Ça, c'est le concept de nouvelle créature dont parle souvent l'apôtre Paul, qui nous dit que la création n'est pas finie et que Dieu peut encore faire en nous, comme dans la Genèse, du neuf, de l'insoupçonnable. Dieu peut nous sortir de l'ancien et Dieu peut nous faire sortir de l'abîme sclérosé de ce dans quoi nous nous engluons en permanence. Parce que si nous sommes en relation avec Dieu, alors dans ma vie, tout peut arriver. Et cette parole de Dieu que j'intègre et qui me fait bouger, me permet de sortir de mon cachot, et peut me mettre en moi quelque chose de neuf que je ne pouvais même pas imaginer. Et cette puissance créatrice, nous dit l'évangile de Jean, n'est pas de trouver du neuf pour faire du neuf, mais c'est là-dedans, nous dit-il, qu'est la vie. La lumière était la vie. Et je pense effectivement que c'est là-dedans, dans ce Dieu-là, que nous avons la plus grande source de vie qui soit, parce que cette nouveauté que Dieu nous donne, elle est la vie. Et cette puissance créatrice, nous dit-on, elle s'est incarnée en Jésus. Nous l'avons par l'Évangile. Là, Dieu est encore à l'œuvre. Et Noël, que nous allons bientôt fêter, est là pour nous rappeler que cette parole créatrice de vie et de lumière, elle se rend présente dans le monde et elle peut naître dans nos vies, même quand elles nous semblent les plus sombres et les plus froides, et que même dans la ténèbre, la lumière peut surgir. Eh bien moi, je crois en Dieu qui est parole, qui est création, qui est nouveauté. Je crois que la chose la plus belle dans ma vie, ce n'est pas ce que je suis, ce que j'étais ou ce que je serai, c'est ce qui est en train de se passer. Je crois que Dieu dans ma vie est lumière, et je crois que cette lumière, c'est la vie, et c'est le bonheur, et c'est la joie pour moi, pour nous tous, pour ce monde et pour l'éternité. Amen.